9h48, les Jeux olympiques se déroulent toujours à Pyeongchang et pour en connaître un peu plus sur l'aspect, je dirais, business de la chose, parce que c'est une grosse machine commerciale, les Jeux olympiques. Vous le savez par les droits qui sont émis, toutes les règles qui viennent avec ça, et pour les diffuseurs, etc., ainsi que pour les annonceurs, comment ça se passe. Et on va aller retrouver, pour en parler, le professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, est avec nous. Bonjour, Luc.
Bonjour, Mathieu.
Bon, on le dit, un des principaux défis, entre autres pour le marché nord-américain, c'est que les heures de diffusion sont pas évidentes là pour les sports.
Oui, et puis si ça se passait, bon, à une reprise, ça serait pas si mal, mais là, ce qu'on sait au moment où on se parle, c'est que les trois prochains Jeux vont avoir lieu en Asie. Déjà, du côté des commanditaires, on constate que ça a un impact. Hein. Alibaba est maintenant les commanditaires officiels, là, les fameux 12, 13, selon les années, là, qui paient quelque chose comme 100 millions de dollars par cycle de Jeux olympiques, c'est-à-dire un jeu d'hiver, un jeu d'été également. Mais et depuis le début de ces Jeux-ci, on l'a vu, là, le problème que ça pose. NBC a payé à peu près 900 millions de dollars pour avoir les droits de télé en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier. T'as une compétition de snowboarding, de planche à neige. C'est Red Gerard qui va remporter la compétition en question. Sauf qu'on décide de présenter tout ça avec un délai. Bon, moi, je comprends pas personnellement, Mathieu, pourquoi tu paies 900 millions de dollars, tu imposes aux Jeux de Pyeongchang des compétitions le matin, pour être capable de présenter tout ça le soir à heure de haute écoute, puis tu commences les Jeux le deuxième soir, puis tu commets cette bourde-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont appris sur Twitter qu'il avait gagné avant qu'il gagne officiellement à NBC.
Mais t'as raison, parce que nous, on l'a vu en direct à Radio-Canada, puis à CBC, si je me trompe pas, puis NBC l'a présenté avec un décalage, t'as tout à fait raison.
Et ce qui s'est passé, c'est que tu as vu sur Twitter des Américains qui restent le long, évidemment, de la frontière canadienne, pas très loin. Hein,
ouais.
Qui ont dit, ben merci, parce que là, moi, j'ai attrapé ça à CBC, et j'ai appris que, bon, il avait remporté. Alors là, et le problème avec le sport, évidemment, je ne l'apprendrai à personne, c'est que quand tu sais ce qui s'est passé à l'avance, c'est moins amusant. Tu peux pas regarder. Tu peux regarder à nouveau le Canadien remporter une Coupe Stanley, là, le match final, mais c'est pas le même bonheur, c'est pas le même plaisir. Fait que ça, si c'était juste ça, puis puisqu'on parle de hockey, mais c'est le problème d'eux, hein. Historiquement, qu'est-ce qui a généré les grandes cotes d'écoute du côté des Jeux olympiques d'hiver en particulier, qui n'ont pas les mêmes cotes d'écoute que les Jeux d'été? Ben, c'est le fameux hockey. Les records de cotes d'écoute télévisées de tous les temps, les Jeux de Vancouver, ben, c'était ça, c'était la finale du hockey masculin. Ben, là, t'as pas ça. Et puis là, ça pose toutes sortes de problèmes sur le plan des compétitions que tu vas décider aussi de montrer. Je te cacherai pas que je trouve que le curling occupe beaucoup d'espace depuis le début des Jeux. Mm-hmm. À une journée près, c'est la discipline. À tous les jours, il y a du curling. Alors là, le danger, c'est décider d'en montrer souvent. Puis la beauté des Jeux d'hiver, ben c'est spectaculaire. La luge, la course, le ski, la planche à neige, le super G. Alors, parfois, là, hier en particulier, hier après-midi, j'ai trouvé c'est un peu long aussi. Quand tu as une stratégie, là, la pierre, tu l'envoies où? Là, ça ressemble un petit peu à du baseball, finalement. Je vais aller parler au receveur et puis par la suite, on va décider ce qui va se passer. Puis le troisième problème, bon, ben, c'est toute la question de la multiplication des plateformes publicitaires.
Et je voyais, puis un aspect démographique aussi qu'il faut pas se cacher, le fait que la Ligue nationale n'y soit pas. On a dit, bon, la Corée, c'est pas un marché important, tout étant relatif, là, c'est plus populaire que le Canada, mais c'est 51 millions de population entouré d'une mer de gens d'un pays voisin qui a plus d'un milliard de population, dans un secteur extrêmement populaire, mais ce pays-là en particulier ne l'est pas.
Oui, et c'est une occasion extraordinaire de présenter le hockey prise 1, puis prise 2 dans 4 ans. Là.
Oui.
Et puis là, on passe à côté de ça. Puis en Asie, deux fois aussi, là, parce qu'on sent bien que dans le cas de Gary Bettman, visiblement, l'Asie, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et pourtant, pour toutes sortes de raisons, il a décidé de passer son tour dans ce cas-ci. Alors, tu as toute la question des multiplateformes.
Oui.
Les problèmes aussi d'utilisation des mots-clés, parce que techniquement, tu ne peux pas dire victoire, médaille, or, argent, bronze, olympique. Alors, ça te limite un petit peu dans les mouvements. Puis, on le voit aujourd'hui, c'est la première page de la presse. On parle de premier scandale de dopage.
Mm-hmm.
D'un athlète russe. Alors, un dans l'autre, ces quatre facteurs-là, les codes d'écoute, bon, le fuseau horaire dont on parlait, l'absence du hockey, deuxième élément, les multiplateformes, l'image, tout ça fait en sorte que tu as des joueurs clés qui ont abandonné la partie. McDonald's, qui pouvait encore poursuivre l'aventure pendant quelques années, puis qui a annoncé il y a quelques mois, bon, ben nous, C'est-tu visiblement à la lumière de tout ça? L'Asie, ça nous embête un petit peu. Les codes d'écoute, on veut les générer en Amérique du Nord. Puis, oublions pas une autre chose, Mathieu, c'est les codes d'écoute sont désastreuses dans l'ouest nord-américain. Parce que Vancouver, toute la côte ouest, là c'est absolument dramatique là, pour la présentation des événements.
Ben oui, c'est soit en fin d'après-midi ou dans la nuit que c'est diffusé.
Parce que nous, évidemment, on a le réflexe de regarder ça avec nos yeux là, de nord-américains, mais plutôt de la côte est. Mais ouais. Pour la côte ouest, c'est totalement...
Donc, pour les publicitaires, c'est pas bon. Pour les gens qui regardent, c'est plus ou moins intéressant à cause du décalage, etc. Ça veut dire que le Comité international olympique va faire quoi avec ça?
Oui, bien là, le défi, ça va être de trouver des nouveaux annonceurs. Puis on le sent bien, ben, de plus en plus d'annonceurs asiatiques, sans surprise. Samsung, ouais. Toyota, Alibaba, qui est un joueur... important. Des commandites aussi, parfois, qui sont tellement subtiles que je soupçonne qu'il y a un paquet de gens qui nous écoutent qui ne l'ont pas vu. Si je te dis, par exemple, que lors des cérémonies d'ouverture, il y avait une commandite de Intel, l'as-tu vu?
Non.
Moi, je pense que tu ne l'as pas vu. Puis si tu je ne l'avais pas lu, je ne l'aurais pas vu non plus, mais c'est les fameux drones.
Ah, ben oui.
Des images et tout ça. C'est Intel, mais encore là, ça devient à un moment donné tellement subtil que c'est subtil dans le subtil, si bien qu'à un moment donné, de la même manière que si je te disais qu'il y a des nouveaux étages de commanditaires au Canada, il y a les premiers, les nationaux, les officiels. Puis je te donnais des noms de commanditaires, puis je te demandais d'essayer de les classer dans la bonne catégorie. Je soupçonne que moi-même, je l'avais pas devant moi sur une feuille de papier, je serais pas capable de te dire Bell est où, la B est où, Petro-Canada, Toyota, Air Canada. Alors, tu vois qu'à un moment donné, on a tellement compliqué à l'infini les choses. Puis qu'est-ce que l'athlète peut faire aussi sur son Twitter?
Mm-hmm.
Évidemment que c'est devenu un outil incontournable. J'espère que tous les athlètes canadiens, avant de se ramasser en Corée du Sud, ont eu une formation là-dessus sur les médias sociaux, parce que c'est ça que les commanditaires vont acheter aussi. Ils achètent l'histoire. Hein? C'est quoi ton histoire? L'histoire du Super G, par exemple. La fille qui compétitionnait dans une catégorie X, qui a changé de sport, qui a décidé de faire autre chose, puis qui remporte les grands honneurs. Ça, c'est une histoire remarquable.
Oui.
Les performances, la personnalité, évidemment. Mais cette personnalité est assise. Tu l'assois en particulier à partir de l'utilisation des médias sociaux. Le sentiment aussi de transparence qu'on a parfois en écoutant certains athlètes. Je pense à Charles Hamelin, ce serait le plus bel exemple que je te donnerais pour les Québécois. Là.
Jusqu'à maintenant, donc, en quelques secondes, Luc Dupont, les Jeux olympiques, ces Jeux olympiques-là passeront pas à l'histoire, à ce que je comprends là.
C'est des Jeux qui sont en partie mal aimés. Bon, toute la question du dopage n'a pas bien préparé le terrain. Mais ça reste aux dernières nouvelles, assurément avec la Coupe du monde. Encore pour quelques années, certainement. Un incontournable.
Luc Dupont, merci. Salut.
Un plaisir.
À la prochaine. Luc Dupont est professeur en communication à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la pub et du marketing.